On voit Baruch Hashem qu'on est en train de se rapprocher de Pourim. Et à partir de la parasha de Shkalim qu'on a lu la semaine dernière, on voit qu'on peut commencer à donner une machatit à Shekel. Donc le fameux demi-cycle.
Ce qui est bien, c'est qu'après la machatit à Shekel, avant il coûtait 50 euros, mais là il coûte 50 shekels le truc.
Non,
on ne te parle. 50 euros.
C'est le pire. Aux États-Unis, voilà, je ne sais pas si on
parle. Tout va bien ? Bon, je vais y aller. On parle du machatit à Shekel, du Shekel à Kodesh. D'accord ? Avec un certain poids. D'accord ? Par rapport au poids et au prix de l'argent d'aujourd'hui, ça correspond à une somme plus ou moins aux alentours, si je ne me trompe pas, des 35 shekels cette année. D'accord ? Donc en France, c'est aux alentours des 8 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ok ? Pour donner le machatit. Maintenant, c'est zecher les machatit à shekel. Aujourd'hui, on n'a pas l'obligation de donner comme à l'époque. Donc on voit que nos frères Ashkenazim, par exemple, eux, pour coutume, donner la moitié de la valeur de l'unité du pays dans lequel ils vivent. S'ils habitent en France, ils vont donner 50 centimes d'euros. S'ils habitent en Israël, ils vont donner 50 agourotes. D'accord ? Mais on voit que la coutume chez les séfarades, c'est au contraire d'essayer de donner la valeur du shekel de l'époque, du demi-shekel de l'époque, qui est à peu près 35 shekels en Israël, 8 euros en France. Ok, c'est bien, mais c'est en souvenir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le donner, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Mishkan. D'accord ? Donc c'est en souvenir de la mitzvah. Pour garder l'habitude de faire cette mitzvah-là, c'est durant cette période qu'on avait pour habitude de faire cette mitzvah-là, pour pouvoir permettre aux Kohanim, aux Lévim, aux Beth Amikdash, d'avoir tout ce dont ils avaient besoin pour la gestion du Beth Amikdash. Ok ? C'est une chose qui est importante. La première fois que HaKadosh Baruch Hu nous a donné le Machatit HaShekel, la mitzvah du Machatit HaShekel, d'accord ? C'était après la faute du Vaudor, à l'occasion de l'inauguration du tabernacle, le Mishkan dans le désert. Maintenant, on voit une chose intéressante, parce qu'on voit dans la parasha, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Prends Machatit HaShekel, du Shekel à Kodesh. Et le Midrash nous rapporte qu'il a montré à Moshe Rabbeinu, en forme de flamme, une pièce d'un Shekel. Donc la question qu'on pose dans le Beit Yosef, c'est de se dire, attends, comment se fait-il que Dieu, il te dit de donner un demi-cycle, et il te montre une pièce d'un cycle complet. Oui, première question. Elle est intéressante, la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité que... Et pourquoi ce machatit HaShekel ? Pour se faire pardonner la faute du veau d'or, premièrement. Quoi qu'il arrive, il aurait fallu donner cette mitzvah chaque année pour le Mishkan. Je dis non, premièrement. Pour la réparation de la faute du veau d'or, il fallait donner un maximum pour le Mishkan, pour la construction du premier tabernacle dans le désert. Donc chaque personne, chaque don qu'il faisait, on voyait qu'il donnait un maximum, d'accord, le maximum de ce qu'il pouvait, de ses moyens, en guise de réparation de sa participation à la faute du veau d'or. Ok ? Qu'elle soit active ou passive, la participation à la faute du veau d'or. On rappellera que pour la faute du veau d'or, ceux qui ont participé de la façon la plus active, c'est le Erev Rav, donc les Égyptiens qui sont convertis au judaïsme avant de sortir d'Égypte, d'accord ? Pour pouvoir suivre les Bnei Israël dans le désert et rentrer avec eux sur la terre d'Israël, parce qu'ils ne voulaient pas rester en Égypte. Mais la faute dont on fait le reproche aux Bnei Israël, c'est d'avoir laissé faire aussi. Donc même ceux qui n'ont pas participé à la fosse de façon active, le fait qu'ils n'aient rien dit a été considéré comme fauté. Quand tu vois quelqu'un qui faute, tu as une obligation de lui faire une remarque. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit ? Ochiach tochiach et amitecha, c'est une mitzvah de la Torah. On se doit de devoir faire un reproche à notre prochain quand il agit mal. D'accord ? Maintenant, comment ils nous expliquent nos maîtres de mémoire béni comment faire un reproche de façon agréable ? D'accord ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Rachamim benihima, de façon sympathique. C'est pas un reproche pour faire un reproche. Premièrement, tu feras un reproche à une personne si tu es sûr qu'elle est disposée à t'écouter. Maintenant, au moment de la faute du veau d'or, c'est sûr que tout le monde était disposé à écouter. Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont vu le miracle de la sortie d'Égypte. Ils ont vu le Matan Torah sur le Har-Sinaï. La Shrina, la présence divine qui se dévoile à nous sur le Har-Sinaï. D'accord ? Maintenant, ils ont vu tout ça. Donc, c'est clair qu'ils étaient disposés à ce qu'on puisse leur faire une remontrance et qu'ils auraient accepté de faire teshuva. Maintenant, les ministres, ils n'ont rien fait. Donc, même ceux qui n'ont pas participé de façon active à la faute ont fauté de façon passive parce qu'ils ont laissé faire l'autre. D'accord ? Ils ont laissé faire les autres. Ça, c'est premièrement. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité ici qu'il y a un point qui est extrêmement important, qu'il nous faudra bien comprendre, c'est que quand Akadosh Baruch Hu montre une pièce d'un shekel complet de l'époque, d'accord, pour les Bnei Israël, pour Moshe Rabbeinu, il dit « Tu donneras le machatit à shekel », ça veut dire toi. Toi, t'es complet, tu vas devoir enlever une partie de toi-même, une partie de ce qui te revient, une partie de ta personnalité, pour pouvoir aider ton prochain. C'est ça en réalité. C'est pas uniquement prendre une somme d'argent et donner la tzedaka. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? Un homme marié, il est marié. À partir du moment où il a son épouse qui est sa moitié, il va falloir lui, parfois, qu'il renonce à ses propres envies, d'accord ? À ses propres besoins pour l'autre, de la même façon pour ses enfants. D'accord ? Donc, bien au-delà de la simple mitzvah de la tzedaka et du machatit, on rappellera que le machatit à shekel, c'est une obligation. Que la mitzvah du machatit à shekel, quand on l'a fait zecher les machatit à shekel, ça ne peut pas être déduit du maaser. D'accord ? Bien que ce soit en souvenir de la mitzvah. Pour ne pas oublier que le jour où on aura réellement l'obligation de donner le machatit à shekel, on ne pourra pas le déduire du maaser. C'est quoi la différence entre le maaser et la tzedaka ? D'accord ? Tout simplement, on voit quoi ? La tzedaka, dans l'Yoridea, c'est Siman Resh Mem Zayin. Ok ? Et après, on voit dans Trumot ou Maasrot, à partir du Siman Shin Lamed Aleph, on nous explique là-bas c'est quoi la différence entre la tzedaka et le maaser. Tout simplement, la tzedaka, c'est ce que tu donnes de ta propre volonté et tu donnes ce que tu veux. Alors que le maaser, d'accord, ce sont des sommes que tu as l'obligation de donner. Est-ce que ça fait partie de la mitzvah de la tzedaka ? La réponse est oui. Est-ce que ça peut déduire et déduire du maaser ? La réponse est non. Nos maîtres de mémoire bénis, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Aser ta aser ou titacher, d'accord ? Prélève la dîme à deux reprises pour pouvoir t'enrichir. De là, on apprend une chose, qu'en réalité, comme on dit aser ta aser, donc prélève la dîme à deux reprises, c'est quoi la dîme ? D'accord ? C'est 10%. Si tu peux prélever deux fois, tu peux prélever jusqu'à 20% de tes bénéfices, d'accord ? Pour donner à la tzedaka. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Quand il y a des mitzvot que tu as l'obligation de faire, d'accord ? Donc on va dire tout simplement, on va donner des exemples concrets. Si maintenant, moi, j'ai besoin de m'acheter mes arba minim pour moi. Est-ce que les arba minim, à la période de Soukhot, quand je vais acheter le etrog, le loulav, le hadas et la harava, d'accord ? Donc quand j'achète les arba minim, est-ce que je peux déduire là, cet argent-là pour la mitzvah de bon maaser ? La réponse est non. C'est une obligation. Est-ce que quand je dois allumer la Hanouka, est-ce que je peux déduire les sommes d'argent dépensées pour la Hanouka de mon maaser ? Encore une fois, la réponse est non. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc il y a des mitzvot que j'ai l'obligation de faire, moi. Je ne peux pas déduire. De la même façon, quand je vais acheter des livres de Torah pour la maison, pour moi, alors la majeure partie des décisionnaires disent, expliquent dans un cas pareil, que si ces livres ne vont pas servir à l'éducation de nos enfants, on ne pourra pas les prélever de notre maaser. Maintenant, si ces livres servent à l'éducation de nos enfants et qu'on est juste en termes de rentrée d'argent, je pourrais déduire les sommes dépensées pour ces livres de mon maaser, ce qui n'est pas évident. Donc à partir du moment où moi j'ai les moyens, d'accord, Baruch Hashem, je gagne bien ma vie, je ne pourrais pas déduire les sommes d'argent dépensées pour les mitzvot pour mes enfants, des mitzvot qui sont obligatoires d'accomplir, comme les arba minim, comme la Hanouka, comme acheter des livres de Torah, je ne pourrais pas déduire ça de mon maaser, d'accord, même si pour mes enfants. Ok ? À partir de quel moment je pourrais, si je n'ai pas les moyens, déduire ces sommes-là de mon maaser ? Uniquement si je n'ai pas les moyens. À partir du moment où les enfants ont plus de 5 ans selon certains décisionnaires et plus de 7 ans selon d'autres décisionnaires. Donc à partir du moment où les enfants arrivent à l'âge de l'éducation. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le mahatzit à shekel, qui fait référence aussi à une obligation, mais en même temps à la tzedaka, ça va au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est au-delà du fait de donner une somme d'argent. Pourquoi ? Parce que ici, l'idée, c'est de te dire à chaque instant, tu dois t'annuler pour le besoin de l'autre. D'accord ? On voit qu'il y a un enseignement qui est fantastique, on dit que de la Kabbalah, qui nous dit que lorsqu'un homme renonce à ses propres, entre guillemets, envies, et se met à la place de son prochain pour comprendre et ressentir son problème, son malheur, et essayer de se mettre à la place de l'autre, il est dans une dynamique de Yetzer Hatov, d'accord ? De bon penchant. Donc c'est Dieu qui va guider ses pas, ses choix. Et parfois, une personne qui se met dans une telle dynamique aura le mérite d'une grande aide providentielle. une grande siata d'Ishmaïa. Pour quelle raison? Tout simplement. Il aura des gens en face de lui, parfois il arrivera à ressentir. On ne sait pas pourquoi, avec un sixième sens, si une personne autour de, dans son entourage a un problème. Et de quel type de problème il s'agit? On voit que Baruch HaShem, parfois on va chez des rabbanim, il n'y a pas de prophète dans la génération. Mais quand on a affaire à des rabbanim qui ont l'habitude de prendre du temps pour leur prochain, les gens vont venir les voir, ils auront cette aide-là providentielle qui leur permettront de dire aux gens, je crois que tu as tel type de problème avec tel type de personne. Les gens ils disent, mais comment il fait? Tout simplement parce qu'il est dans une dynamique de renoncer à lui-même, entre guillemets, à un moment donné, pour se donner totalement à son prochain, pour donner de son temps à l'autre, pour aider son prochain. Donc il est dans une dynamique de vouloir aider l'autre. À partir du moment où je suis dans une dynamique d'égoïsme, de penser qu'à moi, et qu'à mon propre intérêt avant de penser aux intérêts des autres, j'ai une plus grande chance d'être dans une dynamique de yetzer hara, de mauvais penchant, et de voir tous mes choix être guidés non pas par Dieu, mais par mes mauvais penchants. Et à partir de ce moment-là, l'aide providentielle est inexistante. Vous arrivez à comprendre ce que je dis? Baruch HaShem. Donc on voit que dans l'idée même de dire « Donne le machatzit à shekel » et quand Dieu montre à Moshe Rabbeinu la forme d'une pièce complète, d'un shekel complet, d'accord? En réalité, c'est quoi? Coupe-toi à toi, renonce à toi pour ton prochain un petit peu. D'accord? Annule-toi devant les autres, tout simplement, pour arriver à aider les autres, être à leur écoute. Et de cette façon-là, tu auras ici la base même d'arriver à réussir, de la réussite de ton foyer, dans ton shalom bayit et d'éducation de tes enfants. C'est aussi simple que ça, Baruch HaShem. Maintenant, mis à part ça, il y a un point qui est essentiel, qu'il nous faudra comprendre. C'est qu'en réalité, on voit dans le machatzit ha-shekel, donc il y a la notion de tzedaka. Quand moi, je suis dans cette dynamique-là, je suis dans une dynamique de tzaddik, parce que je l'ai dit, tout simplement, par rapport à l'enseignement kabbalistique, que quand moi je renonce à mes propres besoins, d'accord, entre guillemets, à ma propre personne, entre guillemets, pour faire passer les intérêts des autres, des gens qui sont dans mon entourage dont j'ai l'obligation de m'occuper, d'accord, ce qui est extrêmement important, je suis dans une bonne dynamique, sans pour autant me créer des manques. Maintenant, ce qu'il y a, ce qui est extraordinaire, quand on voit ça, c'est que à partir de ce moment-là, comment est appelé une personne qui est guidée par son bon penchant? Il est appelé tzaddik. On voit dans machatzit, le terme machatzit, la lettre centrale de machatzit, c'est le tzaddik. D'accord? Les deux lettres les plus proches du tzaddik, c'est le chet à droite et le yud à gauche. C'est quoi? Chai. Quand toi, tu donnes à ton prochain, tu vis, tu es vivant, tu vis. Les deux lettres les plus loin, c'est le mem et le tav. C'est met.
Ouais.
De la même façon, on voit que Shlomo HaMelech, il nous dit « Utsdaka tatzil mimavet » dans
le
Mishlei. Machatzit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité, Shlomo HaMelech, il dit dans Mishlei, d'accord, dans le livre des Proverbes, « Utsdaka tatzil mimavet » et la tzedaka sauve de la mort. Alors, il y a plein d'histoires connues. Il y a l'histoire de la fille de Rabbi Akiva, que lorsqu'elle est venue au monde, les astronomes avaient prédit à Rabbi Akiva, des astronomes non juifs, qui à cette époque-là étaient réellement arrivés réellement à voir des choses dans le ciel, pas comme ceux d'aujourd'hui, et à prédire certaines choses, d'accord? Tout simplement, il lui avait prédit que sa fille, le soir de son mariage, devait mourir, durant la nuit. Arrive le soir du mariage de la fille de Rabbi Akiva, tout le monde est joyeux dans la maison de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, on le voit, il est blême, parce qu'il sait qu'il est prévu dans le ciel que sa fille meure ce soir-là. Le lendemain matin, Rabbi Akiva, lorsqu'il se lève, tout triste, se demandant qu'est-il advenu de sa fille, il voit que sa fille, elle se lève. Il dit, ma fille, il faut que tu me racontes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait hier soir de particulier? Est-ce que tu as fait une chose qui sort du commun? Il faut savoir qu'il y a une coutume que le Khatan et la Kala, les jeunes mariés, veillent.
Ah, il n'avait pas le droit de faire une tzedaka, il n'avait pas le droit de lui dire.
Bien, écoute. Il a rien dit à sa fille, mais attends, écoute. Veille du mariage, le Khatan et la Kala, d'accord, ont pour coutume de jeûner. Maintenant, la fille de Rabbi Akiva qui avait jeûné jusqu'à la choupa, après la choupa, lorsqu'on vient pour lui servir à manger, il y avait une coutume aussi d'inviter au moment du mariage, dans le Bet Amishté, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on fait un mariage, c'est la maison du repas. Les gens avaient l'habitude d'aller chez les jeunes mariés pour qu'on serve à manger à tous les pauvres. Les pauvres venaient, on leur servait à manger. Arrive un moment donné où il y avait un pauvre à l'entrée de la maison qui n'a pas reçu de quoi manger. La jeune mariée, la fille de Rabbi Akiva, elle voit ce pauvre. Au lieu de manger son assiette et de couper son jeûne, elle vient, elle donne son assiette au pauvre pour qu'il mange. Et elle n'a pas mangé. Durant la nuit, au moment de se coucher, lors pour défaire son chignon, elle avait un peigne dans son chignon pour tenir le chignon. Elle le prend et les maisons étaient en pierre de Jérusalem. Donc entre deux pierres, elle a planté son peigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les astronomes avaient prédit qu'elle devait mourir par la morsure d'un serpent venimeux. Et le serpent, elle a embroché avec sa broche, d'accord, avec son peigne, elle a embroché, elle a tué le serpent qui était dans le mur. C'est un S. Il y a d'autres histoires extraordinaires. Il y a l'histoire du Rav Don Levenstein. Il y a des noms qui portent son nom. C'était un homme qui était très riche, qui habitait à Mea Shearim à l'époque. Et qui a participé énormément au moment de la construction de l'État d'Israël, d'accord, de la refonte, de la reconstruction des routes, etc. Il a donné énormément de tzedaka pour aider à la construction de l'État, etc. Ce qui lui a valu le mérite d'avoir des rues qui portent son nom en Israël. Ce Rav Don Levenstein, un beau jour, il y a un homme, un père de famille qui vient le voir, il dit « Je dois marier une de mes filles, mais je n'ai pas les moyens de la marier. » Voilà. Le Rav Levenstein, il lui dit « Écoute, moi, je n'ai aucun problème, je suis disposé. » Ah, le Rav, non, pas Levenstein, Edelstein. Le Rav Dov Edelstein, excusez-moi. Il lui dit « Moi, je suis disposé à te payer le mariage, les tenues, le traiteur, l'orchestre, tout, je te paye tout. Je te demande juste une chose. Le soir du mariage, n'oublie pas de m'inviter. » Il prépare le mariage, arrive le soir de la choupa, le père de famille... Attends, écoute. Bon, attends. Non, mais il lui a déjà donné toutes les sommes d'argent avant le mariage. Donc, qu'est-ce qui vient? Écoute bien. Arrive le soir de la choupa, ils étaient affairés à la préparation du mariage, il a complètement oublié d'inviter le Rav Edelstein. Donc, il explique à tous les invités, 200 personnes, que c'est honteux, ils sont sur le point de célébrer la choupa, mais celui qui a permis la célébration de ce beau mariage et qui a tout payé, en donnant une belle tzedaka, d'accord, il a oublié de l'inviter. Donc il demande à tous les invités de l'accompagner pour que le Rav Edelstein ne se vexe pas de cet oubli, pour aller le chercher et le ramener jusqu'à la salle de la choupa. Donc tous les 200 personnes sortent de la salle, sortent tous ensemble, ils se mettent à chanter le nom du Rav Edelstein et chanter les louanges du Rav Edelstein dans les rues jusqu'à qu'ils arrivent devant sa maison. Quand ils arrivent devant la maison du Rav Edelstein, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux Arabes qui sortent, morts de peur, comme si qu'ils ont vu l'ange de la mort. Ils se sauvent, d'accord? Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement? Ils étaient en train de braquer le Rav Edelstein, ils voulaient le tuer. Pour lui prendre tout son argent. Et comme le Rav Edelstein a dit à Tzedaka, ils ont entendu 200 bonhommes dans la rue, en train de chanter... et d'appeler le Rav Edelstein. Ils ont eu peur, ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'a sauvé le Rav Edelstein? Cette tzedaka exceptionnelle qu'il a donnée. Donc on voit, tzedaka tatsid mimavet. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit quand moi, je donne à mon prochain, je suis à l'écoute de mon prochain, je suis dans une dynamique de Yetzeratov, et à ce moment-là, je suis appelé tzaddik. Il faut savoir que, comment on est jugé dans le ciel, c'est assez complexe. À un moment donné, à une minute... de notre journée, on peut être appelé tzaddik par rapport à notre comportement, notre façon de parler. Et la minute d'après, on peut être appelé racha ou bédoni. Tout dépend de notre façon de parler, notre façon de nous comporter et notre façon de nous annuler par rapport à notre prochain pour aider, pour être à l'écoute, pour être avec notre prochain dans son malheur. Chacun par rapport à ses moyens, sans se créer forcément de besoins. D'accord? Pour aider son prochain. C'est important de le préciser, mais on voit que c'est extrêmement important. Baruch HaShem. Et on voit quoi? On voit que la première fois qu'on a ce rapport exceptionnel à Tzedaka, dès la sortie d'Égypte, c'est au moment de la faute du veau d'or où Dieu, par la suite, il ordonne ce machatzit shekel. D'accord? C'est extraordinaire. Et on voit là-bas autre chose. On voit que même il y avait des femmes qui ont le mérite d'être des chachmot lev, d'accord? Donc des personnes qui, d'un seul coup, qui n'ont pas appris le métier de tisserand en Égypte. Les hommes n'ont pas appris les métiers de menuisier, d'accord, ou d'orfèvrerie pour faire fondre l'or et former des ustensiles en or, ou en bronze, ou en argent. Ils n'ont pas appris tous ces métiers. Et puis d'un seul coup, on voit que Dieu leur a insufflé le savoir-faire pour pouvoir faire tous les travaux nécessaires à la construction du Mishkan, du tabernacle. Et on appelle tous ces gens-là les Chachmélev. C'était ceux qui étaient les plus désireux de faire la mitzvah. Dieu leur a donné cette Chochma. Et chacun des membres du clan Israël est venu à donner le maximum de ce qu'il pouvait, sauf les Nessim, d'accord, les chefs de tribu qui ont dit « Donnez-vous, et s'il faut compléter, on complète. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait preuve d'orgueil. Au lieu de participer directement à la mitzvah et donner le bon exemple à tous, de donner directement le maximum, ils ont dit « Donnez ce que vous pouvez, et nous, on complète. » Comme parfois, dans certaines synagogues, où on a des gens qui ont plus de moyens que l'autre, ils disent « Bon, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de travaux dans la synagogue, il n'y a aucun problème. Demandez aux membres de la communauté de chacun de donner ce qu'il peut, et nous, on complétera ce qui manque. » C'est ce qu'ils ont dit. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les d'Israël étaient tellement motivés, ils ont trop donné. Moshe Rabbeinu a dit « Stop, arrêtez de donner. Il a trop déjà. On ne sait plus quoi faire. » Et les Nissim n'avaient pas eu le temps de donner. On a considéré qu'ils ont fauté. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apprends de là? Quand tu as l'occasion de faire une misva, ne la remets pas à plus tard. Participe à la hauteur de tes moyens directement, au maximum de ce que tu peux, le plus vite possible. N'attends pas que les autres participent ou fassent. Au contraire, viens, donne le bon exemple. Toi, donne pour montrer aux autres qu'ils doivent donner aussi. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit une chose ici qui est fantastique. C'est que les Bnei Israël, quand ils ont ce rapport-là de tzedaka, on leur dit, voilà, c'est tzedaka, c'est peut-être une obligation, Martita Shekel, ça reste dans la mitzvah de la tzedaka. D'accord? Une tzedaka obligée, qu'on a l'obligation de donner. Mais néanmoins, c'est pour nous faire pardonner les fautes, la faute du veau d'or. Mais comment on le voit? On voit Al Nashe Chochmot Lev. D'accord? Chochmot Lev. Donc, sur les femmes, c'est quoi sur les femmes? C'est quoi? Les femmes, Chachmot Lev, elles ont donné, non? Non, sur les femmes, pour les femmes. C'est-à-dire quoi pour les femmes? Tu apprends que tout ce qu'elles ont donné, ainsi que tous les Chachmot Lev, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont participé, c'était pour se faire pardonner la faute du veau d'or. Pour eux, on a donné. Sur eux, on a donné. C'est quoi sur eux? Sur eux, pour eux, pour se faire, pour les pardonner, eux, de la faute du veau d'or, de leur participation active ou passive à la faute du veau d'or. Maintenant, c'est extraordinaire, Baruch HaShem. On voit en réalité que c'est en cela, depuis, que chaque année, à la période de Pourim, d'accord, à partir de la Parashat Shkalim, qui était la période fixée par nos sages et Moshe Rabbeinu pour le don du Machatzit HaShekel, qu'on se devait de donner ce Machatzit HaShekel. Et depuis, on a pour coutume de donner Zecher les Machatzit HaShekel. D'accord? Mieux que ça, il y en a qui vont plus loin. À l'époque, on donnait que pour les hommes, à partir d'un certain âge, la majorité, d'accord, religieuse, pas la bar mitzvah, en réalité 20 ans, à partir de l'âge auquel les hommes devaient s'engager à l'armée. D'accord? Et aujourd'hui, on voit qu'on a pour coutume de donner aussi pour les hommes, les femmes et les enfants, pour tout le monde on donne. Chacun à la hauteur de ses moyens. Donc, en souvenir, il y a une somme symbolique. Si c'est difficile, après on peut donner. Pour certains, ça peut être difficile de s'amuser à donner 35 shekels par membre de la famille. On peut donner 35 shekels pour les hommes qui ont l'obligation. En souvenir, c'est même pas obligé. D'accord? Et après, donner une petite somme pour tous les autres. Mais c'est important de le faire. Cette somme a pu être donnée pour les synagogues, pour les batel midrash, pour les kolélim, pour les yeshivot, pour les endroits qui diffusent et enseignent la Torah. D'accord? C'est un souvenir. C'est important de le préciser aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que nous, tout ce qui a été fait à partir du moment de l'inauguration du Mishkan, tout ce qui a été donné avant l'inauguration du Mishkan, c'est en guise de pardon pour la faute du veau d'or. Mais ici, nous, on va poser une question qui est assez intéressante. La faute du veau d'or, c'est la faute de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? De faire des statues ou des formes et de les mettre dans un endroit de prière, par exemple, hein, pour prier devant. Ok? Ou pour, tout simplement, on les met là où on veut et on prie devant. Ça s'appelle Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il nous fait à Kadosh Baruch Hu? C'est pour nous faire pardonner la faute du veau d'or, qui demande qu'on fasse tous les dons, d'accord, dont le Machatzit HaShekel pour le Mishkan. Attends, ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'on voit que dans l'inauguration du Mishkan, Dieu, dans les ustensiles qu'il nous demande de fabriquer pour le Mishkan, il nous demande de construire le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il y a sur le Aaron HaKodesh? D'accord? Il y a un kaporet, il y a un couvercle en or, et sur ce couvercle en or, qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Deux chérubins, deux petits anges en or. Donc deux statues. Et où est-ce qu'on les met, tout ça? Dans le Aaron HaKodesh. Pour quelle raison? Oui ou non? Et tous les Bnei Israël, lorsqu'ils priaient, ils priaient en direction du Aaron HaKodesh. Ils priaient en direction du Kodesh HaKodashim. Donc des deux statues en or qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Mieux que ça, on nous disait que ces deux statues-là avaient la particularité de pouvoir être face à face quand Dieu était content de nous, en regardant en permanence vers le bas, donc vers les Luchot Abrit qui étaient dans le Aaron HaKodesh, les tables de la loi et le Sefer Torah du Mishkan qui étaient dans les Luchot Abrit, écrit par Moshe Rabbeinu. D'accord, Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sifrei Torah. un pour chaque tribu, pour les 12 tribus, et un 13e qui était en permanence avec les Luchot Abrit dans le Aron HaKodesh. Donc ils regardaient en permanence vers le bas. Et quand ils étaient, quand Dieu était mécontent de nous, les chérubins, quand Dieu était mécontent de nous, les Krouvim, ils se donnaient le dos, donc ils pouvaient bouger.
Qui est les statues ?
Les statues. D'accord ? C'est quand même. Donc attends, c'est embrouillant. C'est embrouillant ou pas ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait une chose pareille ? Dans le Kodesh, à Kodesh, il te met des statues.
Attends, les statues qui bougent, ça
me prend aussi. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on te dit ?
Tu y crois ?
Je peux ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Je peux ? Il y a une question qui se pose ici. Pour quelle raison ? Tout simplement... C'est pas si on y croit ou pas, c'est ce qu'il y a eu, réellement.
Non, mais c'est détail, c'est vraiment des ouais. Détails quand même. Quand on peut dire, on peut raconter. Détails, toi. Non, mais comment on peut raconter un truc comme bouge. Ça c'est savoir qui c'est qui peut raconter quand il y a des statues qui bougent.
Bon, je peux terminer Voilà. On voit en réalité, donc il y a une question qui se pose. En réalité, on voit que les chérubins, il y en avait un qui avait la forme d'un visage d'homme et l'autre qui avait la forme d'un visage de femme. Et que le chérubin qui avait la forme du visage d'homme représentait tous les hommes du peuple d'Israël. Et celui qui avait le visage de femme représentait toutes les femmes du peuple d'Israël. Et en permanence, il regardait vers le bas, donc vers la Torah. Tout ça pour nous rappeler quoi en réalité ? Que Kadosh Baruch Hu, pour lui, il te dit que chaque foyer du clan d'Israël doit ressembler à un temple, à un Mishkan, à un Bet HaMikdash. Donc quand on allume les Nérodes de Shabbat, les Nérodes de Shabbat représentent la Menorah, d'accord ? Le candélabre qu'on allumait dans... Le Bet HaMikdash. Les chalot qu'on prépare pour Shabbat, elles représentent les chalot du Shulchan Lechem Apanim. Donc les 12 pains qu'on préparait chaque jour, qui étaient préparés pour les 12 tribus. D'accord ? Dans le Kodesh, dans le Saint. Il y avait une table là-bas avec 12 pains chaque jour qui étaient faits. D'accord ?
Qu'est-ce qu'il a mangé ?
C'était le Kohanim. Alors maintenant... Maintenant... En même temps, le Cohen, quand il est rentré en Israël, il n'avait pas de droit de propriété. D'accord ?
Tu pourrais nous expliquer quel était le rôle des Kohanim et des...
Bah, manger
le pain. Tu connais, toi ?
Bien. Alors, c'est une très bonne question. Quel était le rôle des Kohanim et des Lévim ? C'était la gestion. Ils avaient pour rôle de gérer le Bet HaMikdash et les sacrifices. D'accord ?
Qui les a nommés ?
Mais ils étaient nommés de père en fils. C'est Dieu.
Mais qui a décidé ? C'est par rapport à Dieu.
Normalement, au départ, avant la faute du veau d'or, ceux qui auraient dû être Kohanim, c'était tous les premiers-nés. Donc chaque foyer, un garçon premier-né devait être Kohen. D'accord ? Mais comme on a tous participé à la faute du veau d'or, la seule tribu qui n'a pas participé du tout, ni activement, ni passivement, et qui a dit « mais ne faites pas cette faute », c'est la tribu des Lévim. Donc parmi les Lévim, Dieu a décidé, tout simplement, de nommer parmi eux des Kohanim. Donc il a pris Aaron. Et Aaron, ce qui est étonnant, parce qu'Aaron, on voit que lui, en réalité, c'est lui. Quand les Israël sont venus le voir pour dire on veut faire la faute du veau d'or, il a dit ramenez-moi vos bijoux. Mais il essayait de gagner du temps, le temps que Moshe Rabbeinu redescend du Arsinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Arsinaï ? Il y a eu un grand Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu, il a dit je vais remonter 40 jours et 40 nuits. D'accord ? Mais lui, il a commencé le décompte. À partir de la nuit. Eux, ils ont commencé le décompte à partir du jour suivant. Donc, il y a eu un décalage de 12 heures entre le décompte de Moshe Rabbeinu et le décompte d'Ebni Israël. Quand Moshe Rabbeinu a commencé à cumuler du retard, le Satan a montré dans le ciel Moshe Rabbeinu mort en faisant sortir une voix céleste disant que Moshe Rabbeinu avait été tué par Dieu à cause des fautes d'Ebni Israël qui se sont rebellés au moment de la sortie d'Égypte à plusieurs reprises. La première rébellion, c'est juste après la traversée de la mer Rouge, où ils se sont plaints de ne pas avoir d'eau, en disant que l'eau était amère. Ils n'avaient pas d'eau à boire, oui.
C'est vrai qu'ils ont vu un cercueil volé comme ça avec des anges, et ils ont quand même fait un veau d'or.
Alors qu'est-ce qu'ils ont rapporté ? Ils ont rapporté tout simplement qu'ils ne voulaient pas faire d'idolâtrie. Ils voulaient avoir un leader pour remplacer Moshe Rabbeinu. Ils savaient qu'un homme ne pouvait pas remplacer Moshe Rabbeinu, ils voulaient un leader particulier. Donc ils ont voulu... remettre dans le corps d'une statue l'âme de Yosef. Il faut savoir que Yosef Hatzadik, comment il a appelé chacun des pères des 12 tribus dans la paracha Vayechi est comparé à un animal. Chacun. D'accord ? On voit que Yosef, il est comparé au chor. Comparé au chor. Donc au taureau. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? on voit en réalité que Yosef, lui, il avait fait promettre au moment de son décès qu'on prendrait avec nous ses ossements pour les enterrer en Égypte, les siens et celui de tous les pères des 12 tribus. Pharaon, le sachant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a caché les ossements de Yosef au fond du Nil. Il a fait sceller la tombe de Yosef au fond du Nil pour que personne ne puisse récupérer les ossements. Donc Moshe Rabbeinu, pour récupérer les ossements de Yosef, il savait que c'était au fond du Nil. Il a pris une petite plaque en or. Il a écrit un nom particulier. Il a fait le dessin d'un chor. Et avec ce nom-là, c'était pour faire remonter le chor. C'est quoi la bracha de Yosef ? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. Allez, chor, monte. D'accord ? Remonte le chor, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'il a fait remonter les ossements à la surface. Et les ossements de Yosef volaient. Il n'y avait personne pour les porter. Ils volaient. Donc maintenant, on voit quoi ? Et c'est par le mérite des ossements de Yosef que la mer Rouge qui refusait de se s'ouvrir devant les Bnei Israël. Parce que la mer Rouge avait vu, la mer avait vu que par les fautes des Bnei Israël, il y aurait la destruction du premier et du deuxième temple. La mer a dit, moi, ma mitzvah, c'est d'apporter mon sel pour qu'il puisse être utilisé pour les sacrifices dans le temple. À cause des Bnei Israël, cette mitzvah, je ne vais plus pouvoir la faire parce qu'ils vont engendrer, à cause de leur mauvais comportement, la destruction du premier et du deuxième temple. La mer ne voulait pas souffrir. Par le Moshe Rabbeinu, par le mérite de Yosef HaTzadik, quand la mer a vu les ossements de Yosef HaTzadik, la mer s'est ouverte pour les ossements de Yosef HaTzadik. D'accord ? Maintenant, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Micha, qui lui, tout simplement, lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu, comment il a fait remonter les ossements de Yosef, il a récupéré la petite plaque d'or. Et cette plaque-là, au moment où ils ont récupéré tous les bijoux pour faire la faute du veau d'or, Micha, il a donné cette plaque, il l'a mis au milieu. Et cette plaque-là a fait que tout l'or qui a été fondu, de là est sorti un veau en or. Et ce veau-là, il voulait dedans mettre l'âme de Yosef. Et c'est Micha, l'instigateur de la faute du veau d'or.
Alors, parce que là, c'était quoi leur faute principale ? Eux, ils voulaient faire un truc de bien pour...
Ils voulaient un leader.
Ouais, mais c'était quoi leur faute ?
Bah, leur faute, en réalité, c'est qu'à ce moment-là... Viens, je t'explique. La génération du désert, la génération qui est sortie d'Égypte, on l'appelle Dor Déa. La génération du savoir. Déa, ça ne veut pas dire savoir. Ça veut dire uni. C'est une génération qui était unie à Dieu. Donc, ils avaient des prophètes. Ils n'avaient pas un ou deux. D'accord ? Il faut savoir que, mis à part Moshe, il y avait plusieurs personnes qui étaient capables, qui avaient le niveau de pouvoir prophétiser au sein du clan d'Israël. D'accord ? Myriam pouvait avoir un niveau de prophétesse. Aaron, et il y en avait plusieurs parmi eux, qui pouvaient tout simplement demander à Dieu quoi faire. Donc eux, au lieu de demander à Dieu quoi faire, ils ont pris de leur propre chef l'initiative de vouloir trouver un remplaçant qui ne soit pas humain. Et à la fin, quand le veau il est sorti, le Erev Rav qui était là, d'accord, et qui a, lui, engendré cette faute et participé à cette faute, est venu et a fait totalement l'idolâtrie, parce que dès qu'il voit une statue, il faisait l'idolâtrie. Et ça a atterri en très, 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 très mauvais délire entre eux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité, tout simplement, que ça, c'était la faute d'Ibn Israël. C'était très grave. Mais qu'à la base, eux, ils n'ont pas voulu faire l'idolâtrie. C'est de fil en aiguille. Tu vois, toi, au départ, tu veux faire un truc, tu veux faire bien. Tu penses de ton propre chef que c'est peut-être mieux, au lieu de prendre conseil. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et de fil en aiguille, ils sont arrivés à l'idolâtrie du veau d'or. Donc, c'est ça la faute qu'on a ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit que les Krouvim, qui représentent, un, les hommes, l'autre, les femmes, ils sont là pour nous représenter quoi ? Les hommes et les femmes parmi les Bnei Israël. On voit que quand nous, on était unis entre nous, les Krouvim étaient face à face, mais ils regardaient toujours vers les Luchot Abrit, vers les tables de la loi. Et quand on n'était pas unis entre nous, Dieu n'était pas content de nous, il se donnait le dos. C'est un miracle. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit quoi ? On voit que la Kavana, ils avaient des ailes qui les recouvraient les deux quand ils étaient face l'un à l'autre. Et quand Dieu voulait s'adresser à Moshe Rabbeinu, la voix de Dieu passait entre les ailes des Krouvim. Pourquoi ? Les ailes représentent la présence divine. Dieu qui nous recouvre. D'accord ? Dieu qui nous protège. Les Krouvim eux-mêmes représentent les hommes et les femmes dans leur foyer lorsqu'ils cherchent à faire le Shlom Bayit. Et qui comprennent que la base du Shlom Bayit, de la paix du foyer, passe par la Torah. Donc c'est pour ça qu'ils sont placés au-dessus de la Torah, qu'ils regardent vers la Torah, qui est en dessous d'eux, en dessous de leurs pieds. C'est la base de leur foyer. Quand ils le font, l'homme et la femme dans le foyer, ils s'élèvent au rang des malachim, au rang des anges. Ils sont protégés par Dieu. On voit que Ish et Isha, comme c'est marqué dans Maseret Sanhedrin, je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les lettres en commun, c'est le Aleph et le Shin. Les lettres qui changent, c'est le Yud et le He. Le Yud et le He, c'est le nom de Dieu. Aleph et Shin, si j'enlève le nom de Dieu entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui reste? Le Hesh, le feu, il n'y a pas de Shlom Bayit. Donc c'est ça que Dieu essaye de nous faire comprendre. Et c'est ça l'importance. Il dit, tu vois, tous mes interdits à moi, pour le Shlom Bayit, ils peuvent venir s'annuler. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une histoire connue avec le Rav Nissim Karelitz. Un jour, il y a un couple qui est arrivé au Beddin du Rav Nissim Karelitz, Shlita, que Dieu lui donne la Rifoua Shelema. Et l'homme était pas du tout religieux, mais avec des tatouages, des piercings, un punk. Un vrai punk, c'est pas une façon de parler, un vrai. Et la femme, elle était très religieuse. Qui suit roche, les cheveux couverts, habillée, sur les lois de la pudeur, etc. Un décalage. Les gens qui étaient là se sont dit, attends, forcément. Ils étaient religieux, le mari, il est parti en cacahuète. Pas du tout. C'était deux punks. La femme a fait échoua. Maintenant, il s'était marié avec des enfants. La femme est venue en disant, je veux divorcer, mon mari n'est pas religieux. Le Rav Nissim lui a dit, la différence de pratique religieuse dans votre cas à vous n'est pas une bonne raison pour divorcer. Vous allez devoir rester marié. Les enfants, il va falloir trouver un compromis, les mettre dans une école qui vous convienne à tous les deux, où ils pourront apprendre et le bac, et étudier pour pouvoir passer leur bac, entre guillemets, le bagrout, et étudier la Torah. À la maison, il faudra les laisser faire Shabbat jusqu'à qu'ils arrivent en âge de décider d'eux-mêmes s'ils veulent faire Shabbat ou pas. Voilà. Mais vous ne pouvez pas divorcer. C'est comme ça qu'il a sauvé tout le foyer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, pour le Shlom Bayit, il y a certaines lois de la Torah qui s'annulent. D'accord? Parce que c'est très important pour Akadosh Baruch Hu.
Temporairement, quoi.
Hein? Temporairement. Bref. Le Shlom Bayit, c'est très très important. On ne casse pas un foyer que pour des questions de Torah. Donc c'est très important. Donc d'où dépend, hein? C'est une fois qu'ils sont mariés. On parle d'un couple qui n'était pas religieux, il y en a un qui fait teshuva. On ne parle pas avant le mariage. Il y en a un qui est religieux qui épouse une non-religieuse. Ça, c'est autre chose. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que ici, le point qui est important, c'est d'arriver à comprendre. Qu'est-ce qui veut nous faire comprendre à Kadosh Baruch Hu? Qu'en réalité, le Shlom Bayit, la paix du foyer, c'est tellement important pour Dieu que lui, il s'efface pour la paix du foyer. On le voit, une femme qui est soupçonnée d'adultère, la Sota, qu'est-ce qui se passe pour elle? On prend le nom de Dieu, on l'écrit sur un parchemin, on le trempe dans l'eau du Mikvé des Kohanim, d'accord, dans un verre, et on fait boire cette eau à la femme pour voir si elle a fauté ou non. À l'époque, miraculeusement, si la femme avait fauté, ça mettait fin à ses jours. Si elle n'avait pas fauté, il ne se passait rien. On devait tous lui demander Mechila. D'accord? Au Hachem, mais après, elle était récompensée par Dieu lui-même. Cette femme-là. Tout simplement. De quelle façon on l'a récompensée? C'est une femme, si elle voulait tomber enceinte, si elle avait des enfants qui étaient tous blancs de peau, elle avait droit à un enfant mat de peau. Et si elle avait des enfants qui étaient tous mat de peau, elle avait droit à un enfant blanc de peau. D'accord? Ça fait toujours plaisir à une maman. Quand elle dit j'ai un blond et j'ai un brun. Ou non? Donc on voit en réalité quoi? Que on voit que pour le Shalom Bayit, le nom de Dieu s'efface. Pour la Sota, la femme soupçonnée d'adultère, le nom de Dieu, on l'efface. C'est ça qui veut nous enseigner à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est extrêmement important. On voit en réalité donc que toute cette mitzvot qu'on a fait au moment du Mishkan et toute cette kushia qu'on peut avoir entre le Vaudor et les chérubins, c'est nous pour nous faire arriver à comprendre que dans l'endroit le plus saint, le plus important pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'ardoute entre les ministres. Pourquoi? L'ardoute déjà dans le foyer, mais aussi l'ardoute entre les ministres. Que l'unité dans le peuple juif, pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Très très important l'unité. À un tel point qu'on nous rapporte dans Maseret Yebamot, que pour le shalom, les mitzvot assez, les mitzvot positifs de la Torah, peuvent s'annuler. Oh, toi tu dois faire le shalom entre deux personnes, d'accord? T'as une mitzvah assez de la Torah qui se présente à toi, mettre les tefillin ou autre, tu fais pas cette mitzvah-là pour faire le shalom entre les gens. Si c'est ou mettre les tefillin ou faire le shalom entre les gens, faudra préférer faire le shalom entre les gens. Ça veut pas dire, mais pas tes tefillin tous les jours.
C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai que le matin, tu te fâches avec ta femme avant de venir, t'as une journée laïste. Tout
tourne
mal.
Bon, bref.
C'est vrai.
Ça veut dire quoi?
J'ai remarqué.
Ça veut dire en réalité qu'il faut savoir comment faire les choses. Que l'ardout, le shalom, l'unité, Le Shlam Bayit, c'est le Kodesh HaKodashim du clan Israël et c'est la source de notre force. Qu'est-ce qu'on voit dans Purim? Quand Haman il veut demander à Achashverosh, à Suérus, il veut lui demander l'autorisation de tuer tous les juifs, il dit quoi? Yeshno Am Echad, Yeshno Am Mefouza ou Mefourad. Il est dispersé et désuni, ce peuple-là. D'accord? Et on voit quoi? On voit Vedatem Shonot Mikol Am. Et leur religion est différente, et leur loi à religion est différente de toutes les autres lois des peuples. Shonot Mikol Am, rachet Tevot, les initiales, Shema, Shema Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait comme reproche? Les Juifs, ils font la Torah. C'est ça qu'il est en train de dire, Haman. Oui ou non? Mais ils sont désunis. La Torah qu'ils sont en train de faire, c'est ça qu'il est en train de dire. Que dans la Torah, c'est marqué Ve'avta l'erecha kamocha, ils ne sont pas unis entre eux. Quand Achashverosh les a invités au repas pour célébrer le fait que sa royauté ait grandi et le fait qu'il ait épousé la petite fille de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, etc., pour faire grandir sa royauté, et l'union entre le peuple babylonien et le peuple perse, d'accord? Donc, comme on les appelle, d'accord, à cette époque-là, d'accord, on voit quoi? On voit quoi? On voit en réalité que durant ce repas qui a duré 6 mois, lorsqu'ils les invitent, Mordechai leur a dit n'y allez pas, eux ils sont allés. Mais ils ont dit pourquoi? C'est Kacher la Méhadrine. Il a fait un tampon Kacher la Méhadrine. Il a fait des mashgichim. Le mashgiach de la Séouda, c'était Mordechai lui-même, bien qu'il leur ait dit de ne pas venir manger pour vérifier qu'il mange quand même Kacher. Il les a mis dans la cour du roi où il a fait un hérouf. Il a construit là-bas des barrières en tenture. Il a mis des tentures pour leur permettre de porter là-bas, dans la cour du roi. D'accord? Il leur a présenté des vins avec des tampons. D'accord? Chaque personne, par rapport à son âge, il avait un vin datant de l'année de sa naissance. Il a apporté tous les plaisirs, sauf le plaisir de la musique. Pour quelle raison? Parce qu'on dit que la musique adoucit les beurres et elle peut provoquer la teshuva chez un homme. Le fait d'écouter de la musique.
Il savait tout ça de Haman.
Haman, il savait, bien sûr. Achashverosh le savait très bien. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as affaire à des idiots? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui s'est passé, c'est tout simplement que c'est qu'au fur et à mesure, au bout des 6 mois, ils ont fini par enlever les tentures. Donc les Juifs, sans se rendre compte, comme ils avaient beaucoup bu, ils ont commencé à porter le Shabbat. Et à la fin, hein, en leur promettant de leur montrer les kélim du Beth Amikdash, qu'il avait en sa possession, il était avec le tenu du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et ce qui s'est passé, c'est que pour leur montrer les kélim du Beth Amikdash, il a dit, je vous les montre à condition que tous vous prosternez maintenant devant l'idolâtrie. Ils se sont tous prosternés devant l'idolâtrie. C'est cette faute-là qui a engendré la xéra qui est arrivée plus tard, d'accord, de Haman demandant le massacre de tous les Juifs à travers les 127 pays, toute la royauté d'Achashverosh. Et l'excuse qu'il a trouvée, c'est de dire, regarde, quand ils sont nus, ils ont fait l'idolâtrie. Au début, ils ont dit Torah, Mitzvot, etc. Leur religion, ils ne l'appliquent même pas quand il faut. Ils s'en sont détournés très facilement durant le grand repas que tu as organisé. Ils sont désignés entre eux, ils n'arrivent même pas à écouter le grand de la génération qui était Mordechai. C'est le discours qu'a tenu Haman. Si nous, on n'écoute pas nos rabbanim, si nous, on ne suit pas la Torah, si nous, on est désignés entre nous, si nous, on n'arrive pas à être tous ensemble autour de la Torah et des Mitzvot, chacun avec sa façon d'appliquer, chacun par rapport à son niveau d'application, mais qu'au moins on soit tous d'accord qu'on est un seul peuple, parce qu'on a les mêmes valeurs et ce sont les valeurs de la Torah, à partir du moment où on est unis autour de cela, même si on va chacun à un niveau différent d'application de la Torah, d'accord? Tout simplement, Akadosh Baruch Hu nous protège, et nos ennemis, ben, ils n'arrivent pas à nous toucher. C'est ça qu'il veut nous enseigner Akadosh Baruch Hu à travers les Krouvim, l'ardoute entre les Bnei Israël, à quel point c'est important. Et il veut nous le signifier en nous le montrant de nos propres yeux avec des statues qui se tournent. C'est un miracle. Il faut arriver à comprendre le nombre de Nissim qu'il y a eu dans le Mishkan, les miracles qu'il y avait et dans le tabernacle, et dans le premier temple, et dans le deuxième temple, les Nissim qu'il y avait. Maintenant, dans le deuxième temple, il y avait beaucoup moins de Nissim que dans le premier temple. Et l'endroit où on a connu le plus de Nissim, c'est dans le désert avec ce Mishkan. Maintenant, en Bezrat Hashem, on voit en réalité que quand nous, on cherche tout simplement à s'inquiéter du bien-être de notre prochain, à donner la tzedaka à notre prochain, mais aussi à prendre du temps pour comprendre nos femmes, pour comprendre nos enfants, et que notre femme a la même dynamique, d'accord? On a plus de chances de réussir notre foyer, notre shalom bayit et l'éducation de nos enfants. Et là, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous fait profiter de la hashgacha pratit. Ça veut dire quoi? De l'aide providentielle, de la siyata d'Ishmaïa, d'accord? Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que en réalité, quand on fait ça, on a tous les jours des miracles dans notre foyer, qui est de réussir son foyer, qui est aujourd'hui de réussir l'éducation de nos enfants, surtout dans le monde dans lequel on vit. Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite cette année, en faisant la mitzvah en souvenir du Machatzit HaShekel, à ce moment-là, de se rappeler de tous ces enseignements-là et de se dire, c'est pas uniquement avant Pourim que je donne une Machatzit HaShekel, c'est toute l'année, moi, je dois m'annuler pour l'autre. Je dois m'annuler pour Dieu, je dois m'annuler pour la Torah, mais je dois m'annuler pour ma femme, pour mes enfants. Je dois chercher à comprendre l'autre. Et en faisant cet exercice de style dans notre tête chaque jour, cet exercice de pensée et en l'appliquant réellement, d'accord, en le traduisant par des actions concrètes, Bezrat Hashem, on a le mérite que Dieu nous guide dans nos pas et nous aide dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie. Amen, Kenny Ratzon.